Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Joseph Dive, bonjour.
Bonjour.
Vous m'avez donné rendez-vous dans le Chablais à Vouvry, très exactement. Vous êtes ancien conseiller fédéral, bien sûr. Bah, merci d'abord d'avoir quitté votre canton de Fribourg pour le Chablais. Pourquoi cet endroit de Vouvry ?
Parce que nous sommes là au bord du Rhône et que j'ai traversé cette région à pied, une fois sur la rive gauche, une fois sur la rive droite de ce grand fleuve qui vient se jeter pas loin d'ici dans le Léman. Et j'ai fait halte à Vouvry lorsque j'ai fait mon parcours en direction de Rome, pendant la Via Francigena. J'ai fait halte à Aigle en revenant depuis le Haut-Valais quand j'ai fait le tour du pays.
Ça, ce sont des activités de retraités ?
Voilà, absolument. C'est une activité de retraités qui a le double avantage de vous maintenir physiquement et puis aussi de faire travailler un peu les ménages, puisque finalement, ça donne un bouquin en général. Et puis, on est donc attentif, on ne prend pas des notes, mais avec les téléphones, on photographie certains panneaux, mais je fais aussi des photos pour illustrer le livre. Et puis en rentrant, je me documente. J'aime bien voyager. J'appelle ça voyager saut, c'est-à-dire ne pas trop se préparer, arriver à quelque part, que ce soit maintenant en faisant de la promenade ou de la marche à travers le pays, ou aller à l'étranger à quelque part, sans être vraiment préparé. Et puis de se laisser aller, de prendre un taxi, et puis lui dire « amenez-moi à quelque part ». Et c'est en découvrant comme ça que l'on a peut-être des émotions plus importantes que d'avoir étudié le guide par cœur et puis de se dire « Ah, j'ai pas pu cocher trois ou quatre trucs que j'avais prévu d'aller voir ».
Bon, ce sont les rêveries du promeneur solitaire qui peuvent déboucher sur des livres, vous l'avez dit. Alors depuis Rousseau, on sait que cette contemplation de promenade peut déboucher sur des réflexions intéressantes. Notre vie...
On peut d'ailleurs prendre un auteur, à part le prendre à l'autre bout du lac, on peut prendre Maurice Chappat,
oui,
qui dit... marcher et penser vont de pair.
Ben justement, la vie trépidante que l'on mène fait, ben, comme vous venez de nous le dire, qu'on doit souvent réserver ce genre de moments contemplatifs à la retraite. C'est un peu dommage.
Oui, c'est un peu dommage. Et puis d'un autre côté, il ne faut jamais rien regretter. J'ai eu le temps de faire des tas de choses dans ma vie. Et au fond, je suis content de pouvoir expérimenter mon pays, si je puis l'appeler comme ça, ou faire des analyses sur mon pays, ou le découvrir en ayant le temps. Parce que la marche est là, l'avantage de vous servir votre environnement au cinéma, on dira au ralenti. Mmh. C'est-à-dire que vous avez le temps, vous pouvez même arrêter et puis prendre le souffle. Bref, on découvre des choses qu'on ignore souvent et ceux qui lisent mes bouquins viennent souvent me dire « mais je ne savais pas que… » etc. Mais je dis, moi je ne savais pas non plus avant d'y aller.
Bon, bah, c'est un livre qui vous amène à nous aujourd'hui. Rupture, paru il y a quelques semaines chez Slatkin, où vous faites un état du monde assez passionnant. On en parlera très largement dans cette émission, bien sûr. Avant ça, un petit coup d'œil sur votre vie et votre carrière. Vous avez, avant la période connue de toutes et tous, qui est votre période au Conseil fédéral, mené déjà une carrière politique, mais surtout académique, professeur d'économie à l'Université de Fribourg. J'avais une première réflexion sur l'académique et la politique. Souvent, on regarde l'autre de biais. L'académique se dit « bon, ben, la politique, c'est les mains dans le cambouis, c'est pas pour moi ». Vous n'avez pas eu ce réflexe ?
Moi, j'ai pas eu ce réflexe, mais j'ai senti le réflexe de la partie adverse, souvent, parce que lorsque vous avez le titre de professeur, bon, je ne m'en suis pas servi quand je faisais de la politique, mais enfin, les gens savent que vous êtes professeur. Alors, quand je faisais des développements, lorsqu'il n'y avait plus d'arguments à m'opposer, on dit « c'est le professeur qui parle » pour dire « il vient d'un autre monde et il comprend rien ». Alors, et puis l'autre aspect, c'est que le professeur, il a en général, évidemment pas une heure, mais il a toute une année pour développer sa matière. Alors qu'en politique, lorsqu'on donne des interviews, même comme ici, il faut pouvoir ramasser tout ça en très peu de mots. Et c'était une des difficultés pour moi, dans mes débats politiques de pouvoir formuler mes choses d'une manière beaucoup plus directe que je peux le faire avec mes élèves. Et puis l'autre aspect, c'est que quand vous êtes enseignant, vous avez un public homogène. Donc moi, j'ai enseigné l'économie, donc j'avais que des étudiants qui voulaient aussi étudier l'économie, qui ont tous le même âge, qui ont un objectif, qui est de faire un examen chez vous et puis de faire une licence. Donc c'est plus facile que dans une cantine où vous avez des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes, des etc. Et pour moi, c'était toujours un exercice d'adaptation pour que je change de langage pour un public plus vaste qui n'a pas toujours toutes les connaissances que vos étudiants qui suivent un cours en acquise et que vous pouvez faire aller plus loin.
Bon, comme souvent en Suisse, vous avez fait cet apprentissage en petites étapes. Hein. Vous avez été syndic de votre commune dans le canton de Fribourg, conseiller national, député, je crois aussi, oui. au Parlement fribourgeois. Donc ce cheminement pas à pas de la politique qui a sa vertu, du coup.
Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé parler aussi aux gens de ma commune. C'était une commune de 600-700 habitants, donc là on fait vraiment de la politique au réel, parce que les gens, leurs problèmes, et c'est des choses de la vie de tous les jours qui sont à traiter. Et puis j'étais au Grand Conseil fribourgeois, là on commence à toucher des lois, alors j'ai eu un bel os à ronger au départ, puis j'étais président de la commission de la révision de la loi scolaire, qui remontait à Georges Piton, c'est-à-dire à 1870, et qu'il fallait mettre à jour pour être. Donc c'était dans mon domaine, même que je ne suis pas un pédagogue ou un professionnel de l'enseignement ou des techniques d'enseignement. Et puis, c'était évidemment pour moi plus proche de mes connaissances d'économiste, de faire de la politique au niveau national, parce que dans le temps, les cantons avaient leur banque et faisaient leur monnaie. Aujourd'hui, il n'y a qu'une monnaie nationale, donc il y a peu de gens qui étudient la théorie de la monnaie qui peuvent faire vraiment de la politique monétaire. Alors je me disais, bah, les sujets à Berne sont quand même proches de ce que je fais, si je pouvais. Puis l'occasion s'est présentée.
Conseil national, conseil fédéral. À propos de la spécialisation, c'est intéressant parce que vous avez commencé au département des affaires étrangères et quand l'occasion s'est trouvée, vous êtes passé au département de l'économie. Pourtant, j'ai bien lu votre livre et je vois que la chose, la diplomatie, le multilatéralisme, on va en parler, vous passionne. Pourquoi vous êtes dit, je dois aller vers l'économie, c'est mon domaine,
c'est mon truc ? Non, moi je voulais absolument aller aux affaires étrangères qui devenaient libres par le départ de Flavio Coti. Pourquoi ? Parce que en matière économique, tous mes travaux importants, je les fais en économie internationale. Donc,
voilà, on est survolé par des avions de l'armée suisse. Je sais pas.
Voilà,
vous avez eu au Conseil fédéral à travailler sur l'achat des F-18. Je me souviens
non,
plus les dates.
Non, je vais participer à la campagne quand j'étais au Parlement. Mais non, j'étais au Conseil fédéral quand on a eu le naufrage de la Suissaire.
Le grounding.
Un autre sujet. Ouais. Alors, pour revenir à notre sujet là, j'étais donc un économiste qui connaissait bien l'économie internationale et les relations internationales me passionnaient. Donc je voulais être aux affaires étrangères et j'y suis arrivé à un moment crucial, puisque c'était justement l'aboutissement de la première série des accords bilatéraux avec l'Union européenne. Et puis au bout d'une année déjà, j'ai dû me battre et mener ce référendum. Et puis une année après, c'était l'adhésion aux Nations Unies. Deux ans après, venaient les bilatérales 2 que j'avais lancées avec Patton à Bruxelles. Donc j'ai eu des sujets qui m'ont intéressé aux affaires étrangères, mais qui étaient directement liées à ce que j'ai fait.
C'était aussi le 11 septembre 2001, l'entrée du siècle, l'événement qui change... Qui change le monde ?
Oui, donc...
Ça vous laisse pas un souvenir plus...
Oui, y a la Chine qui est entrée à l'OMC au début du siècle, et c'était pour moi le signal que vraiment quelque chose a changé, et nous avons tous bénéficié, si je puis dire, de cet élan incroyable, qu'on pensait pas possible dans un pays communiste, de l'économie chinoise. Et j'ai très vite aussi compris qu'il fallait qu'on développe nos relations vers l'Est. Donc j'ai lancé la conclusion d'un accord de libre-échange avec les Japonais. On a d'ailleurs pu conclure ça, les convaincre finalement en Valais, puisque on les a amenés au Montfort pour faire admirer les montagnes suisses. Et puis j'ai eu beaucoup de relations aussi avec la Chine, mais ça peut-être un peu plus tard lorsque j'étais à l'économie. Pour revenir au département de l'économie, ce qui est intéressant, c'est que après 3 ans et demi, 4 ans aux affaires étrangères, au départ de Pascal Couchepin, j'ai repris l'économie. Il y a ceci de remarquable, si on peut dire, avec cette affaire, c'est que j'ai constaté que depuis 1848 que le Conseil fédéral existe.
La Suisse moderne.
Et la Suisse moderne, bien sûr. J'étais le premier économiste à diriger le département fédéral de l'économie. Alors, j'ai pas pu rater cette occasion. Et ça m'a pas dérangé autrement dans ma posture d'économiste, bien sûr, mais aussi d'internationaliste, puisque je reprenais là des négociations du Doha Round, donc le OMC. Et là, j'étais vraiment dans mon sujet, dans le sujet de ma thèse d'agrégation et aussi la thèse de doctorat qui parlait de ces questions-là. D'ailleurs, une anecdote marrante, quand on a négocié, mes collaborateurs et les ambassadeurs économistes me disaient, il faut en tout cas refuser la formule suisse pour baisser les taux dans les négociations. Puis j'ai dit, c'est quoi la formule suisse? Puis ils me disent, bah, c'est compliqué, vous savez, le ministre, il n'a pas besoin de connaître tous ces détails. Puis bon, je me suis laissé contenter ainsi. Puis la semaine d'après, ça revient, cette formule suisse. Bref, au bout de la troisième fois, j'ai pris ma thèse de doctorat avec, et puis je les ai posées sur le pupitre. J'ai dit, voilà ma thèse de doctorat, quand est-ce que vous allez m'apporter la formule, parce que je veux la tester moi-même mathématiquement, comment elle fonctionne. Ah bon, et c'est, alors, c'est comme ça que j'ai pu me faire aussi un peu d'autorité.
Vous nous amenez un point, hein, c'est cette impression de la population. On va le faire rapidement parce qu'on a la fin de la première partie. Qu'il y a des hauts fonctionnaires qui dirigent finalement et puis que les politiques passent.
Hein. Oui, alors évidemment, vous ne pouvez pas en une seule personne réunir toutes les connaissances qu'il faut. Mais il arrive quand même assez souvent que le ministre a quand même quelques connaissances, donc il ne serait pas arrivé là. Et là, j'ai dû quand même, non pas m'imposer, mais leur dire, mais écoutez, moi j'en ai marre d'écouter seulement vos sornettes et puis de faire le persil dans les narines de la tête de veau.
Bon, on va lasser la tête de veau et s'interrompre un instant. On reviendra sur votre livre Rupture chez Slatkin, livre passionnant, dans la deuxième partie de cette émission.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, Joseph Dice, on se retrouve sur ces bords de Rhône avec un petit soleil automnal à Vouvry pour parler de ce livre Rupture. Rupture au pluriel que vous avez fait paraître donc chez Slatkin. C'est une analyse du monde. J'ai vu sur votre page Wikipédia qu'il y a des publications qui sont répertoriées. Elles s'arrêtent au moment de votre entrée au Conseil fédéral. Il n'y a qu'un seul livre qui est mentionné, c'est celui-là, Rupture. Vous l'estimez comme un moment important de votre réflexion?
Lorsque j'ai quitté le Conseil fédéral, j'ai quand même écrit un manuel de politique économique et sociale encore, qui est toujours utilisé dans les universités, qui est à sa 3e édition. Mais après, j'ai trouvé que ça suffisait. Puis j'ai fait mes marches, j'ai écrit des bouquins de marche, ça a étonné certains. J'ai même écrit un bouquin sur les chansons de Brassens. Et puis, alors, il y a 2 ans ou 3, oui, ça fait bientôt 3 ans, le 24 février 2022, quand il y a eu cette invasion de l'Ukraine, membre fondateur aussi des Nations Unies, tout comme la Russie, j'ai ressenti comme une cassure, quelque chose, et c'est ce mot rupture qui m'est intervenu. Et j'ai eu le sentiment que quelque chose n'était plus comme avant, parce que je suis de cette génération d'après-guerre, je suis né en 1946, donc très peu de temps après la fin des hostilités, et nous avions au fond vécu une période faste, non seulement de développement économique, mais aussi de progrès de la paix. Évidemment, ça va lentement et jusqu'à ce que vous avez fait tourner une machine aussi complexe que les Nations Unies, etc. Mais on progressait. Il y a eu la charte de l'ONU, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a eu la Cour pénale internationale, il y a les conventions de Genève que la Suisse a lancées. Il y a le Conseil des droits de l'homme qui a été fondé. Bref, on progressait. Et là, j'ai eu le sentiment, on est en train de passer par-dessus bord tout cela.
Bon, sentiment en cours d'écriture qui n'a pas été démenti par la situation à Gaza, vous y revenez très largement.
Voilà.
Juste un mot sur l'ossature de votre livre. Hein. Vous analysez un certain nombre de ruptures, d'où ce S au mot dans le titre. Et puis, vous terminez justement par une sorte d'état des lieux du monde qui évidemment n'est pas très joyeux. Hein.
Je suis quand même pas pessimiste ou désespéré. Au contraire, je reste très positif, je crois en l'avenir, mais je crois que nous devons nous ressaisir. Ce que je veux avec ce livre, au fond, c'est secouer un peu les gens, parce qu'il y a des dirigeants qu'on peut critiquer parce qu'ils prennent des décisions incroyables et cruelles, très souvent, mais ils ont souvent un soutien populaire. Regardez pour qui on vote. C'est temps, il n'y a pas besoin d'attendre le résultat des États-Unis, mais vous avez un ordre.
On enregistre le jour de l'élection américaine, voilà, donc on ne va pas en parler, parce qu'on ne sait pas ce qu'il en sortira.
Pendant que les Américains vont faire ce choix crucial. Mais enfin bref, j'ai dit, il faut secouer. Et puis, en progressant dans ma réflexion, j'ai vu que finalement, notre existence de l'espèce humaine sur Terre, elle est très courte par rapport à l'entité
Chose, moi j'ai appris énormément de choses dans ce livre, parce que vraiment vous avez alors un certain nombre de ruptures. Il y a la rupture économique, il y a la rupture climatique, enfin environnementale, il y a la rupture démographique, il y en a toute
voilà,
une série
que
vous analysez.
Depuis 250 ans, il y a eu toute une série de ruptures positives vers le haut. La population a explosé en moins d'un quart de millénaire. L'économie a été, on tente toujours pour définir la révolution industrielle au XVIIIe siècle, on dit que la quantité produite de métal, de fer, a été multipliée par 10 000. Mais nous vivons actuellement une évolution au niveau de l'information, où les informations dont nous disposions étaient multipliées par des milliards, n'est-ce pas ? Donc il y a eu ça. Mais il y a aussi la rupture.
On apprend le mot pétaflop grâce à vous.
Voilà,
hein.
Pétaflop.
La
oui.
Pétaflop.
C'est 10 à la puissance 15.
1000 milliards de 1000 sabords,
voilà.
Du capitaine Haddock,
voilà.
C'est un pétaflop.
Alors, il y a d'ailleurs maintenant les exaflops, ça part à une vitesse folle. J'étais à une réunion.
Bon, ce sont les serveurs,
qui
cumulent les
données. Ouais. Mes collègues, les collègues des anciens présidents des Nations Unies. Et j'ai appris là qu'il n'y a pas que l'intelligence artificielle, mais maintenant il y a trois catégories. Nous disposons de la normale, en préparation et la générale, et puis il y a encore la super intelligence artificielle. Donc tout cela progresse à une vitesse folle. Et il y a eu aussi en même temps une évolution très rapide sur le plan juridique. On a créé les États, comme ils sont, on parle de nation-État, on a...
on parle de deux siècles, hein,
voilà, on est
États,
toujours
deux
dans
siècles,
le même.
Deux siècles
donc
et
j'ai
demi.
Vu que dans ces deux siècles, depuis le siècle des Lumières, le 18e siècle, il y a eu tous ces développements sont faits à ce moment, et il y a même eu une accélération formidable à partir de la deuxième moitié du XXe siècle.
Ce qu'on voit justement dans votre livre, c'est que les deux mots sont toujours ensemble, hein, rupture et accélération.
Oui.
C'est vertigineux, on le sait. Hein,
oui.
Tout cela, on en entend beaucoup parler, l'explosion démographique, toutes ces choses-là, on en entend parler. Mais là, vous condensez tout sur un seul recueil, et donc ça illumine un petit peu le monde.
Oui, c'est une sorte
monde.
De fresque que j'ai voulu faire, mais aussi pour démontrer que ces accélérations ne sont pas nécessairement infinis. Comme par exemple en démographie, tout le monde ne parle que de la surpopulation, alors que dans l'Union européenne, sur 27 pays, 18 ont une population qui diminue, malgré l'arrivée des réfugiés, des immigrants.
Vous pointez à cet égard d'ailleurs l'hypocrisie de la politique à l'égard des migrants,
voilà.
En disant...
il y a dans tous les pays développés, il y a un tassement tel que maintenant, avec la dénatalité, puisqu'il n'y a même plus le nombre de naissances qu'il faut pour maintenir la population, sans l'apport extérieur, l'Europe, d'ici 20 ou 30 ans, elle aura diminué de 10-20% de sa population.
Bon, il y a une rupture qui... Je vous interromps, je vous sens passionné, hein, mais on est, comme vous le disiez, le temps est compté dans une interview radio. Il y a une rupture, évidemment, qui s'impose à nous, dont on entend parler tous les jours, c'est la rupture écologique qui a aujourd'hui un poids sur toutes les autres.
Oui, d'ailleurs, la rupture écologique, elle aura, si nous n'arrivons pas à nous entendre là-dessus, elle aura des effets dévastateurs beaucoup plus puissants encore que les guerres que nous déplorons actuellement, que ce soit en Ukraine, au Proche-Orient ou dans d'autres points du monde comme au Soudan. Mais il y a quand même une autre rupture qui est en train de se faire, et je la qualifie de morale ou de juridique, c'est que tout ce qu'on a mis en place avec les droits de l'homme, les conventions de Genève, tout cela est bafoué d'une manière honteuse, et moi il me fallait le dire.
Vous avez présidé l'Assemblée Générale des Nations Unies, hein, c'est une présidence d'une année, c'est ça ?
Oui, c'est toujours une année. C'est une année, l'Assemblée Générale des Nations Unies siège, si je peux le simplifier, une fois par année, c'est-à-dire du 13 septembre au 13 septembre de l'année suivante. Donc elle est toujours en action, elle n'est pas toujours réunie dans le plénum, mais ça travaille toute l'année. Donc vous êtes pendant cette année-là, vous êtes le président, vous êtes le numéro un protocolairement, mais c'est aussi vous qui êtes responsable de l'accomplissement de certaines tâches. Moi j'ai eu des moments assez émouvants, par exemple, puisque j'ai pu présider à l'adhésion du dernier des membres des 193, le 193e, nous étions le 190e, le 193e, c'était le Soudan Sud, qui est devenu membre des Nations Unies à la fin d'une guerre, on ne peut pas dire la fin, puisque toute la région est toujours encore dérangée, mais au bout d'une première guerre sanglante, sont devenus membres des Nations Unies, c'est moi qui ai pu présider à cette cérémonie.
Vous êtes dans tout ce livre un ardent défenseur du multilatéralisme, donc de cette construction de la paix issue des deux boucheries mondiales du XXe siècle. Et vous le dites, cette construction-là est aujourd'hui bafouée, que ce soit par les potentats de type Poutine, etc., mais aussi par les démocraties qui en sont les pères, les pères de ce multilatéralisme. Hein. La politique des États-Unis à l'égard d'Israël, par exemple,
Les États-Unis, par exemple, qui sont à l'origine, en grande partie, de la charte des Nations Unies, c'est Eleanor Roosevelt, la veuve du président Roosevelt en 48, qui présidait le comité de 9 personnes expertes qui ont mis au point la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Et pourtant, les États-Unis placent toujours leur droit national au-dessus du droit international. Ou encore, si vous prenez Israël, qui a évidemment été l'aboutissement d'une sanglante histoire abjecte pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été un des premiers pays à signer les conventions de Genève, et qui aujourd'hui se comporte comme si elles n'existaient pas.
Vous avez à la fin du livre toute une analyse, enfin votre regard en tout cas sur la crise en Ukraine et celle du Proche-Orient.
On peut prendre un fait d'actualité pour montrer cette déchéance ou cette décadence, disons, morale, le mensonge, on appelle ça fake news aujourd'hui, avec un terme anglais, est devenu général. Ce matin en venant ici, j'ai lu sur les nouvelles que la Russie, qui est un exemple, n'est-ce pas, de démocratie, critiquait les votations qui ont eu lieu en Moldavie et prétendait que ça n'était pas un vote démocratique. Alors, on est dans un monde totalement chamboulé.
C'est Orwell, hein, tout souvent la comparaison avec Orwell, la guerre c'est la paix, le travail c'est la santé, non, c'était pas Orwell ça.
Mais... Et alors je me dis, mais comment se fait-il que... Puisque nous avons maintenant les preuves, vraiment, il n'en faut pas plus, 20 millions ou presque de morts à la Première Guerre mondiale, 80 millions de morts pendant la deuxième question. Est-ce qu'on a besoin de faire l'exercice encore une fois pour comprendre que la guerre, c'est une sottise énorme ? C'est tout simplement pas possible.
Comment regarder l'optimisme ? Parce que, en effet, enfin, je veux dire, il suffit d'écouter Trump en ce moment, d'écouter Poutine, de voir la politique de Netanyahou en Israël pour voir que le régime de la guerre reste le régime premier dans le cerveau des hommes.
Moi, je pense que dans le fond de l'homme, il y a quand même le bon côté qui va sûrement. J'étais à Katmandou au mois de mai. J'étais là-bas parce que j'ai une de mes collaboratrices personnelles qui est maintenant notre ambassadrice. Et puis elle m'a dit, bah, vous ne pouvez pas toujours m'accompagner, qu'il fallait que j'aille visiter le temple des singes, le Monkey Temple. Et quand j'arrive à ce temple, où il y a effectivement des singes qui se baladent en liberté, c'est un temple bouddhiste, il y a à l'entrée un grand panneau qui dit en anglais, la paix est plus précieuse que le triomphe. Et j'ai trouvé ça magnifique. Peace is more precious than triumph. Et il faut le dire à tous, à Poutine, écoutez, si on arrive à faire la paix, c'est un aboutissement beaucoup plus important, plus difficile aussi, que de gagner une guerre. Et moi, j'aimerais que les gens comprennent. Alors, je suis désespéré parce que j'avais déjà pas beaucoup de pouvoir en tant que conseiller fédéral. Les gens croient toujours qu'on a beaucoup, mais on peut pas faire grand-chose tout seul. Et puis aujourd'hui, je suis encore plus démuni que cela. Et j'ai beaucoup de gens, pas plus tard que hier, j'étais avec deux anciens collègues de l'université qui me disaient « Mais nous nous sentons démunis, que pouvons-nous faire ?» Et je dis « Ouais, je sais pas, mais parlons de paix plutôt que de guerre. Tout le monde, si tout le monde on se met à parler, on peut... » favoriser ce qu'on appellerait une escalade, non plus de la violence, mais une escalade de la paix.
Bon, ben on va rester sur ces mots, Joseph Daïs. Merci infiniment pour ce moment et d'être venu dans le Chablais. Rupture aux éditions Slatkin, c'est un livre où on apprend énormément de choses, puis on a aussi votre vision du monde vers une dynamique de paix. Hein. C'est la fin du livre et c'est en effet les derniers mots que vous nous avez accordés. Merci à vous.